Le guide de la Révolution dirige à Tombouctou la prière pour les présidents et les musulmans venus de toute la région du monde et prononce son discours du nouvel défi que voici. Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô croyants, priez et admettez. De la ville de Tombouctou, nous nous adressons à la nation musulmane et au monde entier en ce jour historique pour l'humanité entière. En effet, aujourd'hui, lundi 12 Rabi al-Awwal du calendrier lunaire, le sceau des prophètes Mohammed vit le jour. Comme vous le savez sans doute, c'est pendant ce jour-là également qu'il décéda. L'humanité a deux dates qu'elle utilise ou qu'elle se doit d'utiliser pour sa datation, en l'occurrence le jour de la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, car sa naissance fut un miracle et un signe divin, et le jour qui marque la naissance et le décès du sceau des prophètes. Il faut utiliser ces deux dates de manière concomitante. La naissance de Jésus-Christ, puisqu'il s'agit d'un miracle, et la mort de Mohammed, étant donné qu'il est le dernier des prophètes. 1374 années se sont écoulées depuis la mort du sceau des prophètes, Mohammed. Que la paix soit sur lui. En ce jour, lundi 12 Rabi al-Awwal, environ 633 ans après la naissance de Jésus, le prophète Mohammed décéda. Depuis son décès, la révélation s'interrompit et le ciel cessa de s'adresser à la terre et à ses habitants. Aucune révélation ni message n'arriverait plus jusqu'à le jour de la résurrection. Malheureusement, l'histoire et les connaissances que nous utilisons aujourd'hui sont erronées. Ils croient à tort que Mohammed est le prophète des Arabes ou des musulmans uniquement. C'est faux. Mohammed est l'envoyé de Dieu pour l'humanité tout entière. Il abroge ainsi toutes les religions révélées avant lui. Si Jésus était vivant du temps du prophète, il aurait été parmi ses disciples. Le monde entier doit être musulman. Ainsi veut la volonté divine. Mais l'humanité ne deviendra pas musulmane aussi facilement. Dieu dit, pour Dieu, la religion est l'islam. Tous ceux qui croiraient en une autre seraient parmi les perdants le jour du jugement. Abraham était musulman, ainsi que Jacob, Israël, Ismaël et leurs descendants. Tous les prophètes ont prêché l'islam et Mohammed était l'ultime prophète à le faire. D'aucuns avaient tenté à la réputation du prophète, ce qui a provoqué la colère des musulmans. Ces derniers se sont fâchés pensant que les insultes proférées visaient leur prophète. Or, celui qui a insulté le prophète n'a en réalité offensé que son propre prophète, puisque Mohammed est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Qu'il s'agisse des peuples de Scandinavie, du reste de l'Europe, du continent américain, d'Asie ou d'Afrique. Mais, puisque la grille de lecteur adoptée en Scandinavie est falsifiée et incite à la tolérance, ils pensent à tort que Mohammed n'est pas leur prophète. Puisque l'on se targue de respecter la liberté d'expression, nous sommes en droit de nous attendre à voir un dessin de Jésus coiffé de bombes atomiques, puisque ce sont les adeptes de Jésus qui inventèrent ces bombes. Or, ils choisirent de dépeindre Mohammed coiffé d'une grenade. De toute évidence, Mohammed n'est nullement coupable. Mais le but est de montrer du doigt les adeptes de Mohammed qui utilisent ces grenades. Jésus est tout aussi innocent que Mohammed. Il n'en demeure pas moins que ce sont ses fidèles qui inventèrent la bombe atomique. Par respect pour la liberté d'expression et la presse, nous sommes en droit de voir les mêmes caricatures de Jésus à l'instar de celles de Mohammed. Comme ils ont représenté Mohammed entouré de femmes voilées, il est tout à fait concevable de dépeindre Jésus entouré de femmes nues, puisque les femmes chrétiennes le sont. En Scandinavie, les femmes sont dévêtues tout en prétendant être chrétiennes. Jésus comme Mohammed sont innocents de tous ces agissements. Au nom de la liberté de la presse et de l'opinion, ils se doivent de dépeindre Jésus entouré de femmes à l'instar de Mohammed. Quoi qu'il en soit, les pensées américaines et européennes sont intolérantes, viciées et inhumaines. Elles sont fondées sur ce qu'elles appellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il n'en est rien. Ces deux testaments sont abrogés et contrefaits. Ils furent élaborés des centaines d'années après la disparition de Jésus. La Bible contient des passages indignes de Jésus et de Moïse. Si l'on souhaite réellement réformer la situation humaine et créer un village planétaire grâce à la mondialisation, il nous incombe donc de chercher la véritable Bible, car celle que nous détenons aujourd'hui n'est qu'une copie falsifiée. En effet, celle-ci ne contient aucune référence à la venue du prophète Mohammed, alors que la véritable Bible inspirée par Dieu évoque Mohammed à plusieurs reprises. Il faut que nous retrouvions la Bible de l'apôtre Barnabé, la seule véritable Bible où est mentionnée l'arrivée de Mohammed après Jésus comme prophète pour l'humanité tout entière. Elle stipule également que celui-ci allait abroger le message de Jésus. Jésus dit dans la Bible authentique, et non dans la contrefaite d'aujourd'hui, ce sont les paroles de Dieu. Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le prophète de Dieu, envoyé vers vous ». Lorsque Jésus s'adresse au peuple d'Israël, il est clair que leur a été envoyé exclusivement et non pas aux autres peuples. Ni l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Afrique ne sont concernés par la religion de Jésus, qui leur dit « Je suis le prophète de Dieu, envoyé vers vous, je crois en ce que j'ai entre les mains, à savoir la Torah ». Il entend par là le peuple d'Israël. Jésus n'a pas amené la Torah, mais il fait référence au livre de Moïse. Aussi, s'agit-il d'une invitation à laisser de côté la tradition de Moïse pour suivre celle de Jésus. À la venue de Mohammed, il est tout à fait normal que les adeptes de Jésus quittent sa tradition pour suivre celle de Mohammed. Si Moïse était encore vivant lors de la venue de Jésus, il serait devenu chrétien. Tous ceux parmi les adeptes de Moïse qui n'ont pas suivi Jésus sont dans l'erreur. Il en va de même pour Jésus vis-à-vis de Mohammed et les chrétiens qui ne sont pas convertis à l'islam. Ils se trompent tout simplement. Aujourd'hui, de Tombouctou, nous rectifions l'histoire de l'humanité. Jésus leur a dit « Je vous annonce la bonne nouvelle et j'augure de l'apparition d'un autre prophète après moi, nommé Ahmed ». Où est ce passage dans la Bible que nous connaissons ? Nulle part, alors que Jésus a bien tenu ses propos. Ils ont donc effacé ce passage. Dieu nous a dit qu'ils ont effacé ces phrases que Jésus prononça pourtant. S'ils veulent réellement conclure une paix avec nous, il va falloir mettre sur pied une commission qui devra réexaminer la pensée théologique occidentale et la Bible, puisqu'elle est falsifiée. Des commissions américano-musulmanes ont été constituées pour revoir les programmes scolaires dans les pays musulmans. Il nous paraît dès lors tout à fait logique que de telles commissions soient formées pour revoir les programmes scolaires américains et européens. Je leur signale tout de même que Moïse est cité 136 fois dans le Coran. Pourquoi n'avons-nous pas effacé ces passages? Ce sont les paroles de Dieu. Nous ne pouvons pas les effacer, sinon nous serions des mécréants. Pourtant, ils n'ont pas hésité à gommer les passages qui évoquent Mohammed dans la Torah et la Bible. Je les défie de publier la Bible de l'apôtre Barnabé. Marie, quant à elle, est citée 33 fois dans le Coran. Et pourtant, nous n'avons pas effacé la parole de Dieu. Jésus est évoqué 25 fois. Nous n'avons pas effacé ces passages non plus. L'évocation de ces prophètes dans le Coran est un hommage, une reconnaissance et une glorification de leur message. Le prophète Mohammed n'est pas mentionné dans la Bible alors qu'il le fut avant. C'est bien la preuve que la Bible est adultérée et que le Coran ne l'est pas. Dieu dit, « Dis, je suis le message de Dieu pour l'humanité entière. » Dieu leur ordonne de suivre le messager illettré qui est mentionné dans la Torah et les Évangiles. Or, ces livres ne mentionnent nullement ce prophète, ce qui prouve qu'ils ont été trafiqués. Mais n'ayez pas crainte. Dieu dit, c'est lui qui a envoyé son message avec une direction, une foi juste, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit des polythéistes. Dieu répète ses paroles dans deux versets coraniques. N'ayez crainte, la foi de Mohammed triomphera sur toutes les autres, n'en déplaise aux chrétiens et aux juifs. Dieu le dit sans embâche. Pour propager l'islam, nous n'avons nullement besoin de l'épée ou de la bombe. Il existe 50 millions de musulmans en Europe, sans oublier qu'il est des signes que l'islam apparaîtra en Europe sans recourir à la violence ni à la conquête. Ces 50 millions de musulmans transformeraient l'Europe en un continent musulman l'espace de quelques dizaines d'années. Dieu fera que la Turquie intègre l'Union européenne pour que le nombre de musulmans européens croisse à 100 millions. L'Albanie fait d'ores et déjà partie de l'Europe alors qu'elle est une nation musulmane. Il en va de même pour la Bosnie, dont 50% de la population est musulmane. Les statistiques démontrent qu'il existe des mosquées par milliers en Europe et que des organisations et associations musulmanes y foisonnent. L'Europe, tout comme les États-Unis, sont pris au piège. Soit ils admettent qu'ils deviendraient à l'avenir des nations musulmanes, soit ils déclarent la guerre aux musulmans. Puisque Mohammed est le messager de Dieu pour l'humanité entière, conformément au Coran, il en découle donc que la population du monde entier doit répondre à l'appel de Mohammed. Appelle les hommes au pèlerinage, appelle-les au pèlerinage, ils viendront à toi à pied ou sur toute monture élancée. Ils viendront par des chemins encaissés. Dieu lui signifia d'appeler les hommes, tous les hommes à se rendre en pèlerinage et pas uniquement les musulmans. Pourquoi ? Parce que Mohammed est le messager de Dieu pour l'humanité tout entière et que la Mecque est le premier lieu édifié pour l'adoration de Dieu sur terre. Dieu dit dans le Coran, la première demeure construite pour les hommes fut la Mecque et elle est bénite et sert d'orientation aux hommes. C'est un lieu destiné à l'humanité entière et pas uniquement aux musulmans. Il est prescrit aux hommes qui en ont les moyens de se rendre en pèlerinage à la Mecque. Le texte coranique ne spécifie pas les musulmans ou les arabes, mais parle des hommes en général. Il dit aussi « Nous avons fait de cette demeure un lieu de rencontre pour les hommes. Chacun a le droit de se rendre en pèlerinage à la Mecque, de tourner autour de la Kaaba, de marcher entre Safa et Marwa, de se rendre sur le mont Arafat et de lapider la stèle représentant Satan. » Tous les hommes sont appelés à faire des circonvolutions autour de la Kaaba, pas uniquement les Arabes ou les musulmans. Ils sont tous invités à parcourir la distance séparant Safa de Marwa comme ils doivent lapider la stèle de Satan. En ce sens, nous avons commis une erreur. Qu'est-ce qui empêche que le monde entier se rende en pèlerinage à la Mecque ? Pourquoi les Juifs et les chrétiens ne se rendraient-ils pas en pèlerinage à la Mecque ? Puisqu'ils sont invités à se convertir à l'islam et à laisser de côté le christianisme et le judaïsme. Dieu dit, « Ô Mohammed, appelle les hommes à tourner autour de la Kaaba. C'est mon droit de demander aux hommes de tourner autour de l'antique demeure. Nous n'avons aucune justification pour leur interdire de se rendre à la Mecque. Si les présidents américains, français ou italiens viennent nous voir, ils nous disent qu'ils souhaitent répondre à l'appel de Dieu et tourner autour de la Kaaba, que dirions-nous ? Nous n'avons aucune excuse. Il existe un seul et unique verset dans le Coran qui proscrit dans un seul cas leur pèlerinage. Faites attention à ce verset. Ce verset proscrit le pèlerinage aux infidèles impurs. Les infidèles sont impurs et ne doivent plus approcher la Kaaba à partir de cette année. Devons-nous leur dire qu'ils sont impurs, sales et polythéistes? Je défie quiconque qui oserait dire ça au président américain. Le président américain nous répondrait « Je ne suis ni impur ni polythéiste. Comment pouvez-vous m'accabler d'accusations aussi compromettantes? S'il est vrai que je suis sale et impur, comment se fait-il que vous me serriez la main et que vous partagiez mes repas? Comment est-il possible que vous fassiez preuve d'amitié à mon égard? Comment pouvez-vous être mes alliés? Si vous dites vrai et que je suis impur et sale, je devrais être frappé d'ostracisme. » Après quoi, il nous sortira un billet vert et nous dira « Tenez, lisez ce qui est écrit sur ce dollar. Adieu, nous nous confions, selon le traducteur. Par voie de conséquence, seuls l'infidèle et l'impur sont exclus et ne peuvent s'approcher de la mosquée Al-Haram. Mais qui sont vraiment ces impurs? Certainement pas les gens du livre, puisqu'ils ne sont ni polythéistes ni impurs. Il s'agit d'une vraie problématique. Un nouveau défi lancé de Tombouctou en ce jour glorieux. Désormais, aujourd'hui, le monde remet en question des principes longtemps érigés en vérité absolue. Les statistiques que j'ai évoquées sont avérées. J'en ai ma possession, j'ai dans ma possession ces chiffres-là, à savoir le nombre des musulmans en Europe est de l'ordre de 50 millions, alors que le nombre des mosquées et des centres islamiques avoisine 14 000, en plus de 1 500 organisations, associations et institutions islamiques. Le nombre de ces institutions sera amené à croître avec le temps, sans parler des populations turques, bosniaques et albanaises. Autrement dit, la parole de Dieu est en train de se réaliser pour placer l'islam au-dessus de toute religion en dépit des polythéistes. L'islam est la destinée de l'humanité. Il est la religion de l'humanité. C'est la parole divine. C'est la volonté divine. Dieu est plus grand. C'est un nouveau défi lancé de Tombouctou, une nouvelle secousse pour l'humanité. En ce grand jour qui marque à la fois la naissance et le décès de Mohammed, le sceau des prophètes, nous disons à l'humanité, qui doit utiliser les deux dates mentionnées dans son calendrier, en l'occurrence la naissance de Jésus, qui fut un miracle, et la disparition du dernier des prophètes. 2006 années se sont écoulées depuis la naissance miraculée de Jésus et 1347 années depuis la mort de Mohammed. À partir de ce jour, l'humanité doit écrire la date ainsi, 2006 correspondant à 1347. C'est une évidence que nous soumettons aux vues au-dessus du monde entier. Pourquoi avons-nous choisi de lancer ce défi à partir de Tombouctou plutôt que de choisir un autre lieu en terre d'islam? Nous avons choisi Tombouctou car c'est ce village, cette oasis qui revêt une importance historique tant sur le plan religieux que social pour les musulmans. C'est depuis cet endroit qu'un jour la lumière de l'islam rayonna sur le continent africain. Quelle distinction pour le peuple de Tombouctou, quel honneur historique. Tombouctou a une dimension qui transperce l'horizon. Des savants érudits ont consacré leur vie dans cette oasis au cœur du désert pour disséminer la parole divine. Mais que s'est-il passé? Les ennemis de Dieu, de son prophète et du livre révélé ont falsifié les autres livres saints. Le Coran n'a pas pu être falsifié puisque Dieu le protège. Où sont passées les tables de la loi de Moïse? Où sont les psaumes de David? Où sont les lois divines de Shu'aïb, de Salah, d'Idris, de Noé, d'El Goufl, Yas'a, d'El Noun? Où sont passées leurs lois divines? Ils ont été falsifiées et détruites. Où est passé l'évangile de l'apôtre Barnabé? Ils l'ont brûlé. Pour le Coran, Dieu a dit qu'il était intouchable. Aucun musulman ne se permettrait d'insulter Jésus, Moïse ou Marie. Agir de la sorte équivaut à insulter les prophètes que nous reconnaissons. Un citoyen m'a adressé ce mot en réaction à ce défi. Il propose que chaque nouveau-né, ce mois-ci, soit prénommé Mohammed ou Ahmed, s'il est de sexe masculin, ou Fatima, fille du prophète, ou Aïcha, son épouse, s'il est du sexe féminin. Et ceux qui nourrissent des sentiments haineux à l'encontre du livre révélé ont eu vent de l'existence de ce phare en plein désert qu'est Tombouctou. Ils décidèrent dès lors d'éteindre cette flamme, cette lumière. Ils partirent à la recherche de ce lieu dénommé Tombouctou. Toute l'Europe ne parlait que de Tombouctou, mais ils n'arrivent pas à situer l'emplacement exact de cette ville à défaut de cartes à cette époque. Ils occupèrent la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, puis le Tchad. Ils envoyèrent des éclaireurs dans le désert. Une mission d'exploration remonta du fleuve Niger et arriva à Tombouctou. On demanda alors à ses membres ce qu'il venait de faire dans cet endroit. Ils répondirent qu'il ne faisait que remonter le fleuve Niger. Mensonge, car il venait explorer Tombouctou. Ils envoyèrent même des groupes de géographes qui n'étaient en vérité que des officiers du renseignement. Ils voulaient éteindre la lumière qui émanait de ce phare qu'est Tombouctou pour étouffer l'essor de l'islam. Ces individus font partie des gens du livre. Ils arrivèrent dans ce village, consignèrent les noms des tribus, connurent leurs divers chefs, firent la connaissance des commerçants, établirent des routes vers Tombouctou. Ils y trouvèrent un peuple sans armes, un peuple affable qui ne détenait que les livres, le savoir et le Coran. Le plan fut fomenté en Europe d'où ils partirent. Ils avancèrent de Tunisie, du Sénégal, du Tchad vers Tombouctou, qu'ils finirent par occuper. Ils assouvirent leur vengeance en détruisant et en pillant les livres qu'ils jetèrent dans le fleuve Niger. Ils transformèrent ces mosquées en étables, puis ils remblayèrent le canal qui transportait l'eau du fleuve vers le village, ce canal que je viens de visiter. À ce propos, vos frères libyens ont décidé de forer de nouveau ce canal pour qu'enfin l'eau revienne par la grâce de Dieu à Tombouctou après que la colonisation l'ait privée depuis si longtemps. C'est le conciliabule historique dont Tombouctou fut victime. Il est vraisemblable qu'elle en soit victime de nouveau. Mais revoyons tout d'abord l'histoire de ce complot historique. Pour qu'ils colonisent le désert de nouveau, ils enverront des nouvelles expéditions humanitaires cette fois-ci. Il se peut qu'ils les appellent missions de paix, alors qu'ils ne sont composés que de nouveaux colons et d'officiers du renseignement déguisés en reporters sans frontières, médecins sans frontières, les amis de l'environnement ou des missions d'évangélistes. Quelles que soient les appellations modernes qu'ils leur donneraient, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une nouvelle conquête du désert. Mais nous lançons de Tombouctou un deuxième défi après qu'on ait évoqué le premier concernant la religion, le pèlerinage, la Kaaba et la pensée réformée. Cette fois-ci, il s'agit d'un défi social et national face au colonialisme. Nous leur disons, si vous avez l'intention d'occuper le désert, permettez-nous de vous donner un conseil. Ce désert est un endroit difficile, habité par un peuple intrépide de lions et d'aigles. Son sable n'est que braise, son air est flamme et feu. Nous vous avertissons, avant que vous ne vous embourbiez dans le sable du désert, si vous comptez occuper le désert en y installant des bases, vous allez alors humilier ses habitants et exploiter ses richesses. Vous allez saper les bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le désert. Nous, peuple du désert, nous nous transformerons alors en lion et aigle, en braise et feu. On vous a prévenu. Nous, peuple du désert, réunis ici à Tombouctou, en ce grand jour qui marque la naissance et le décès du dernier des prophètes, tendons notre main à ceux qui veulent conclure la paix avec nous. Mais nous dégainerons le glaive et son fourreau face à nos ennemis. Le Coran dit, s'ils tendent vers la paix, fais de même. S'ils aiment la paix, nous sommes le peuple de la paix. En revanche, s'ils veulent nous priver de notre indépendance, nous nous métamorphoserons en une force redoutable qui enflammera le désert tout entier de la Mauritanie et le Sénégal à l'Irak et les campagnes de Grande Syrie. Nos autres tribus du désert avons une seule et unique identité, celle du peuple du Grand Désert. Nous avons vécu libres des milliers d'années dans ce désert et nous souhaitons le rester dans cette terre qui s'étend du Sénégal et de la Mauritanie au croissant fertile. Ici se trouve notre terre et notre foyer. Nous sommes une seule et unique famille. Une famille qui se compose de plusieurs membres, dont chacun un nom. D'aucuns s'appellent les Touaregs, d'autres les Barabiches, les Sénégalais, les Fulani, les Bambara, les Toulou, les Dali, les tribus du Soudan, du Tchad, du Niger, celles du désert du Nil, Est et Ouest, les tribus du Sinaï, de Jordanie et les campagnes de Grande Syrie, de l'Irak et du Croissant Fertile. Tous ces noms viennent d'une même famille, la famille du désert. Nous allons nous protéger mutuellement et venir en aide les uns aux autres. Jamais nous ne porterons les armes les uns contre les autres. Nous nous serrons la main et nous nous prenons dans les bras. Nous forgeons les alliances en temps de guerre, nous développons le désert et nous vivons en paix, sécurité et stabilité. C'est bien ça, une grande famille, peuple du désert. Nous dégainons nos épées et leurs fourreaux à l'unisson pour faire face aux agressions étrangères. Nous sacrifierons nos vies pour le désert et nous abreuverons son sable de sang. Jamais nous ne céderons un grain de sable à l'occupant. Les tribus du désert, du croissant fertile au fleuve du Sénégal, ne se feront jamais la guerre. Notre sang est sacré. Nous sommes une seule et unique famille qui veille sur le désert. Ce désert qui, de tout temps, fut l'objet de convoitises. Il faut forger une union qui sera le lien social pour toutes les tribus du désert. Nous élaborons une charte que nous signerons tous, la charte de Tombouctou. Ici, nous sommes tous réunis, rois et sultans, chefs des grandes tribus du désert, ainsi que des dirigeants de pays islamiques, de partis et d'institutions musulmanes qui sont venus de tous les coins du monde. Enfin, nous avons parmi nous notre frère Louis Farrakhan, le chef de Nation d'Islam aux États-Unis.